stop you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Une petite blague de Thomas Beau pour commencer avec un générique qui n'est pas celui du jour. À moins que vous ayez envie de parler de théâtre. On en parlait sur Twitter toute la journée, Stéphane Corrard, que les critiques sortent de leur zone de confort. Donc on va parler comédie française, théâtre de l'Odéon et la colline. Vous êtes prêts?
Comme l'a dit Christophe Comte sur Twitter, si je parle théâtre, effectivement, plus personne n'ira jamais. Je suis comme lui.
Bon, alors rappelons tout de même que cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, par Lucille Como, Boris Pinault et Camille André, que la prise de son ce soir est assurée par Clément Daté, la réalisation Thomas Beau, et donc autour de moi, Stéphane Correa, que nous avons déjà entendu, Anaël Pija et Frédéric Bonnet, critique dramatique ce soir. À notre affiche, la pièce Eugène Delacroix qui se joue au musée du Louvre, Fujita, peindre dans les années folles, c'est au musée Mayol, et Abdelkader Benchama, l'horizon des événements, c'est au 104 à Paris, qui accueille donc beaucoup de spectacles. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des DVD magnifiques Faust, une légende allemande, film de Murnau, version restaurée distribuée par Potemkin. Nous ouvrons cette dispute spectacle vivant avec la grande exposition de la Croix organisée par le Musée du Louvre et le Metropolitan Museum of Art de New York, une première à Paris, en tout cas depuis l'exposition 1963, à laquelle aucun de nous n'a assisté. Elle célébrait à l'époque où elle commémorait le 100e anniversaire de la mort de l'artiste. Aujourd'hui, 2018, donc 180 œuvres qui nous montrent le parcours peut-être au final plus complexe qu'on aurait pu le penser, puisque c'est vrai que la liberté guidant le peuple peut cacher la grande forêt, la grande richesse de la production du peintre. C'est une exposition qui se décline en trois parties. Nous allons en parler dans un accrochage strictement chronologique. Et l'exposition a pour commissaire Sébastien Allard et Côme Fabre.
Cher Eugène Delacroix, je suis dans l'ivresse où vous m'avez laissé. Il n'y a pas un seul petit nuage dans ce ciel pur, pas un grain de sable dans notre lac. Je commence à croire qu'il y a des anges déguisés en hommes, qui se font passer pour tels et qui habitent la terre pour quelque temps.
Vous aurez bien sûr reconnu l'écriture de Georges Sand sur la musique de Frédéric Chopin pour cette lettre à Delacroix, puisque ça dit des lettres, en tout cas du texte, il y en a aussi beaucoup, c'est une des particularités de cette exposition du Louvre. Mais pour commencer, alors Frédéric Bonnet, tiens, un premier tour de table sur vos rapports personnels avec Delacroix. Avant cette exposition, Frédéric Bonnet, Delacroix pour vous?
Ils ont toujours été excellents, mes rapports personnels avec Delacroix. Bah oui.
Bon,
oui,
je pense qu'ils le sont restés. Bon, je ne veux pas déflorer trop. Anaël Pija, Delacroix.
Excellent aussi, avec une tendresse particulière pour les femmes d'Alger.
Ouais. Stéphane Correa.
J'avais, je crois, comme beaucoup de gens, une image assez précise de la période dite romantique, on va dire la première moitié du travail de Delacroix, plus confuse pour ce qui est de la suite.
Ça s'arrête là, la phrase?
Oui,
c'était en l'air, non?
Non, la parce suite. Que j'allais dire ce que j'en pensais maintenant, mais j'ai compris que ce n'était pas le sens de votre question. Ça, c'est ce que j'en pensais avant. Ce que j'en pense maintenant, ce sera pour plus tard.
Très bien, vous avez compris, en effet. Frédéric Bonnet.
Oui, ma relation à Delacroix n'a pas changé, effectivement, et elle s'est même encore améliorée, je dirais, parce que cette exposition, Stéphane a parfaitement raison de souligner qu'on avait tous une grande partie du public qui va voir cette exposition, même en connaissant Delacroix, avait une vision très partielle du travail, parce que ce qu'on voit, c'est toujours les tableaux des années 1820-1830, pour l'essentiel. Et Moi, je trouve cette exposition assez ingénieuse. Bon, elle est chronologique, mais elle est très bien jouée dans la mesure où, d'entrée de jeu, la première salle, bam, 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 on vous aligne Dante et Virgile, ouais. Les massacres de Kyo, la liberté guidant le peuple, comme ça, c'est fait. Et on peut passer à autre chose. Mmh. Et ce qui se passe derrière, bah, c'est absolument formidable, intéressant, passionnant, parce que on se retrouve face à un artiste qui a été beaucoup plus inventif que l'image qu'on en a, même quand on est allé visiter le musée de la Croix, mmh. où finalement on reste sur beaucoup de choses quand même de la période dite du romantisme, la plus connue. Et moi, ce qui m'a surtout intéressé en fait dans cette exposition, bah, c'est la fin. C'est la fin des années 40 et les années 1850, où là, je dois avouer que je connaissais très très peu de choses, où je me suis retrouvé face à un artiste qui s'interroge et qui m'interroge. Un artiste qui est dans une époque où il se passe des changements assez importants. Un artiste qui, auréolé de sa gloire, voit arriver des jeunes artistes comme Gustave Courbet, où il y a une peinture réaliste qui est en train d'arriver, de se mettre en place, Millet, Courbet, etc., et qui reste absolument au-dessus de tout ça, sourd à tout ça, et qui développe, qui continue à développer un vocabulaire qui est très, 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 très étonnant, qui évidemment n'est pas sans lien avec ce qu'il a fait auparavant. Mais tout de même, il y a vraiment un moment de bascule, je trouve, à partir de la fin des années 40, et notamment les grandes compositions de fleurs, où là, on se dit, il se passe quelque chose.
Oui, c'est certain. Cette corbeille de fleurs renversée dans un jardin, c'est 1848-49.
Et il n'y en a pas qu'une.
Qui vient de New York. Non, mais on voit qu'il y a une palette complètement folle chez Delacroix.
Ah ben, il y a une palette qui est complètement folle. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression qu'on est, à ce moment-là, face à un artiste. Encore une fois, dans une époque où on s'intéresse beaucoup au réel, à la réalité sociale, un artiste qui ne s'intéresse pas à la réalité, mais qui s'intéresse plutôt à la vérité, mmh. ou à une forme de vérité, et qui va continuer à donner une vérité au corps, qui va continuer à donner une vérité au paysage, et il le fait d'une manière assez magistrale, notamment parce qu'il y a toujours beaucoup de dramaturgie chez Delacroix, et jusqu'à la fin, on voit qu'il réussit, et pour moi, c'est vraiment un point clé, si ce n'est le point clé du travail de Delacroix. Et ce que met en exergue cette exposition, c'est qu'il y a une dramaturgie qui traverse absolument tout le travail et qui atteint des points d'acmé à la fin, soit d'une manière très très simple, je dirais entre guillemets, quand il va faire des aquarelles des falaises d'Étretat, où il arrive à une lumière que je trouve assez prodigieuse, où pour moi un des plus beaux tableaux de cette exposition, c'est un Christ en croix de 1800, début des années 1850, je crois, où là, justement, par contre, il n'y a plus du tout de couleur. Le ciel est noir et le corps du Christ est complètement blanc. Le visage disparaît et il y a juste une trace de couleur rouge très foncée qui coule sur le corps. Et moi, je suis resté scié par ce tableau.
Bon, voilà déjà un bel aperçu, mais c'est vrai que, comme vous le disiez, cette dernière partie... des choses que vous connaissiez pas peu, mais c'est la faute aussi aux conservateurs, au public, parce que les conservateurs, parce que les publics veulent retrouver le même Delacroix, celui qu'ils connaissent bien. Donc c'est l'avantage évidemment de cette grande exposition qui à l'évidence fait date, Anaëlle Pigeat.
Oui, je voudrais continuer un peu sur la fin de l'exposition qui effectivement est tout à fait passionnante. La raison de cette redécouverte aujourd'hui ou de cet oubli dans les années qui ont précédé tient peut-être aussi au fait qu'il y a une sorte d'incompréhension entre Delacroix et ses contemporains pendant ces dernières années. Les fleurs, et pourtant Delacroix est une figure qui, on le sait, et ça a été beaucoup commenté, est aussi une figure qui a eu une influence chez les artistes de la modernité. Cézanne, par exemple, possédait l'un des bouquets de fleurs qui l'a complètement fasciné, qui est une sorte de composition quasiment à plat, enfin sans perspective, d'un bouquet de fleurs sans perspective. Ce qui est, Frédéric, vous parliez de la notion de vérité chez Delacroix dans cette période de fin. Il y a la question de la mémoire aussi qui est tout à fait essentielle. Apparemment, les commissaires de l'exposition ont travaillé beaucoup à partir du journal de Delacroix. qui est d'ailleurs exposé en très bonne place comme une sorte de pivot au centre de l'exposition, alors même que c'est un travail qu'il a accompli en continu avec une période d'interruption de 13 années, puis qu'il a repris à la fin dans un autre genre. Et c'est une parenthèse, mais c'est très intéressant de voir l'évolution de son écriture, des moments où l'écriture est beaucoup plus saccadée avant qu'il ne s'interrompe et puis reprend de manière plus régulière. Donc cette question de la mémoire est tout à fait présente dans son journal, dans la fin, comme un élément d'affirmation de son originalité. C'est-à-dire que, en fait, à partir des années, enfin, de la fin de son, après l'exposition universelle de 1855, où il a une grande rétrospective et qui est un moment de consécration pour lui, il travaille à partir de son souvenir et il travaille à partir, en fait, alors que dans les premières années de son œuvre, une de ses singularités consistait à introduire des morceaux de réel dans des grandes compositions, dans des grandes peintures d'histoire, par exemple les massacres de Sceaux ou par exemple la liberté sur sa barricade, qui en même temps a une certaine abstraction, mais quand même une part de réel très forte. À la fin, au contraire, c'est plutôt son monde intérieur qui l'ouvre au regardeur et qui crée une sorte d'atmosphère presque proustienne, finalement. On a Sacher Coro aussi, par exemple. C'est un effet idéalisant du souvenir. Et on peut en prendre, par exemple, un des chefs-d'œuvre de la fin de sa vie, qui date de 1859 et qui est Ovid chez les Scythes, qui est un porteur d'un sens profond, parce que c'est le poète qui est réfugié chez les barbares, donc c'est l'artiste isolé, dans lequel on voit cette grande jument violacée qui est complètement disproportionnée par rapport au reste du paysage, et où on voit vraiment une atmosphère de rêverie, beaucoup plus qu'une atmosphère de réalité.
Stéphane Correa va pouvoir continuer sa phrase.
oui, alors, effectivement, cette rétrospective, elle est passionnante déjà, parce qu'elle est la rencontre d'un possible et d'un impossible. Le possible, c'est très basiquement qu'il n'y a qu'au Louvre qu'on peut faire une vraie rétrospective de Delacroix, puisque beaucoup de ses chefs-d'œuvre, en tout cas, y sont, à tel point même que il y en a deux qui n'ont pas été déplacés et qui sont restés dans les collections permanentes, et pas des moindres, la mort de Sardanapale et la prise de Constantinople par les croisés. Et en même temps, c'est impossible parce que les œuvres majeures de la maturité, on va dire, du milieu de sa vie d'artiste, sont des commandes réalisées in situ, qu'on ne peut voir d'ailleurs qu'en partie, à Saint-Sulpice, hein, la chapelle des anges, mais il y en a qui sont au Sénat aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qu'on ne peut pas voir. Et personnellement, c'est mon premier regret dans cette exposition, c'est qu'elle ne tente même pas d'en rendre compte. Il y a vraiment des esquisses minimes. Il aurait pu y avoir pour le coup un film, des photos, comme il y en a dans beaucoup d'expositions, qui essayent simplement au moins de montrer ce que sont ces œuvres d'accomplissement de Delacroix. Je trouve que c'est un manque, c'est évidemment pas c'était pas facile, mais je pense qu'ils auraient pu essayer. Mais en réalité, ces deux, ce possible et cet impossible, sont les deux faces d'une même médaille. C'est la posture du grand peintre français que Delacroix a tout fait pour tenir, et qu'il a en grande partie tenu, malgré d'ailleurs des controverses non négligeables de son vivant. D'ailleurs, dès l'entrée, je crois qu'ils mettent cette phrase en exergue, « La gloire n'est pas un vain mot pour moi ». Donc c'est très clairement quelqu'un qui a une revanche à prendre, qui veut prendre cette position de grand artiste. Moi, j'étais très frappé dans les deux premières salles de cette période romantique, où on voit que les horizons sont très bas, les ciels sont immenses, comme si on pouvait vraiment s'attaquer « sky is the limit », comme diraient les anglo-saxons. Et puis il y a justement une figure qui commence à émerger, parce que souvent au premier plan, il y a des ruines, des masses de corps, etc., et puis on sent que quelqu'un veut émerger, c'est l'artiste qui veut sortir de ce marasme et s'élever un peu vers le ciel. C'est ce qu'on voit dans le tableau où il y a Dante et Virgile, par exemple, à partir de Sardanapale. Là, il y a une figure qui commence à émerger, c'est celle de l'artiste. C'est aussi, je trouve, ce qu'on voit dans l'autoportrait au gilet vert, où on voit l'artiste arriver, une tranquillité d'affirmation de sa position. Et puis à partir de son voyage au Maroc, une certaine nonchalance le prend. Il y a même des comédiens qui apparaissent, je pense à Comédien au bouffon arabe, un tableau de 1848, des musiciens. Et à ce moment-là, c'est peut-être à cause de... Ça m'a fait un déclic, j'ai vu après beaucoup de cabotinage, j'ai vu comme si justement l'artiste devenait un petit peu lui-même une forme de bouffon, c'est-à-dire qu'il reprend tous ses thèmes anciens. Apparemment, si j'ai bien lu dans le journal, il dit lui-même qu'il n'y croit plus vraiment, à ces thèmes. Il les reprend un peu sans conviction, je dirais. Alors parfois avec une très grande habileté picturale. Par exemple, il y a deux versions d'ailleurs d'un même tableau, le combat du Giaour et du Pacha. Il y a une version de 1826, une version de 1835. Celle de 35 est absolument incroyablement meilleure que celle de 26, parce que tous les corps sont mélangés. Il y a trois corps humains et deux chevaux, et tout ça ne fait qu'un gigantesque amas de chair qui est absolument magnifique. Mais alors après, moi, il y a deux salles notamment qui ont été pour moi assez problématiques à traverser. C'est celle où ils ont d'ailleurs mélangé de manière un peu curieuse les commissaires, ces grandes compositions florales ou des plus petites. D'ailleurs, ce qui peint aussi beaucoup pour le marché. À ce moment-là, il fait beaucoup de petits tableaux, un peu de commandes, parfois même des scènes un peu grivoises, des choses un petit peu comme ça faciles. Et puis, c'est mélangé avec des batailles orientales. Ce qui fait que ça donne cette espèce d'impression de facilité, parfois presque de parodie, voire d'auto-parodie. C'est vrai que les Christ en croix sont assez beaux, je crois qu'il y en a trois ou quatre qui sont alignés, mais en revanche, il y a un tableau que j'ai trouvé presque kitsch, le Christ au tombeau, tableau de 47-48, qui est totalement dans le noir et où le Christ, on dirait presque une ampoule électrique qui illumine tout le tableau. Et d'ailleurs, Delacroix disait même de ce tableau qu'il dégageait une émotion qui l'étonnait lui-même. Ce que je trouve être une phrase assez curieuse. Et d'ailleurs, à la fin, j'ai quasiment cru voir des tableaux de Quirico des années 50-60, c'est-à-dire vraiment le Quirico réac. Il y a les chevaux sortant de l'eau, un tableau de 1858-60. On voit que c'est ça qui a été regardé. Donc pour moi, j'ai eu une lecture finalement assez psychologique du parcours de Delacroix à travers l'exposition, qui d'ailleurs, très bizarrement, commence et se termine avec la même citation d'une lettre de Delacroix à Baudelaire, où il lui dit « Vous me traitez comme on ne traite que les grands morts ». Et à la fin, la citation est complétée et il rajoute « Vous me faites rougir tout en me plaisant beaucoup, nous sommes faits comme cela ».
Bon, voilà un autre tout à fait point de vue, quelques réponses au propos de Stéphane Coréard, Frédéric Bonnet.
Non, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, mais en partie, ça rejoint des questions posées par Stéphane. Il y a aussi, je parlais de dramaturgie tout à l'heure. Un des corollaires de la dramaturgie, c'est qu'on voit vraiment que ce peintre qui effectivement cherche la gloire et la cherche de beaucoup de manières différentes, en partie dans le traitement des grands formats, et là vous avez parfaitement raison Stéphane, quand vous parlez des ciels très 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 hauts, il y a quelque chose de se confronter vraiment à l'échelle du tableau et essayer d'agrandir le paysage et encore une fois de faire entrer quelque chose d'une part de vérité dans le tableau. Mais un des corollaires de la dramaturgie, c'est que il y a une sorte de recherche de puissance spectaculaire qui traverse quand même beaucoup le travail et qui se joint d'une conscience du tragique qui est assez bien amenée autant dans des sujets littéraires que dans des sujets politiques que dans des sujets religieux. Donc on est face à un artiste qui arrive quand même à se saisir d'une multiplicité de sujets, mais encore une fois tout en restant superbement étranger à ce réalisme du milieu du 19e siècle qui pourtant va devenir un courant très très fort. C'était assez intéressant parce que dans le très long texte des deux commissaires dans le catalogue qui est passionnant, qu'on peut lire d'ailleurs par morceaux, on n'est pas obligé de le prendre de A jusqu'à Z, mais on peut le prendre par bout, et c'était à la fois informatif et en même temps analytique. Moi, j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Et il parle de ça et il l'analyse comme une sorte de mouvement d'affirmation aristocratique, ce qu'il était, parce que Delacroix venait d'une très très grande famille qui a tout perdu, et donc dans cette question de la gloire, il y a quelque chose de la revanche sans doute, et donc de se mettre quelque part en repli de la réalité sociale et de rester un peu au-dessus de tout ça pour contempler les choses, mais pas forcément en faire état. Et puis affirmer aussi sa position à la fin du grand artiste qu'il est. À partir de l'exposition universelle de 1855, il est le très grand artiste français. Et donc, je pense qu'il cherche aussi à être un peu au-dessus de la mêlée.
Annaëlle Pigeat,
oui, je voulais aller dans cette direction aussi et revenir de cette origine de l'histoire, c'est-à-dire qu'il vient d'une famille très prestigieuse. Et puis, il perd tout. Et en fait, on a l'impression d'un artiste qui tente des coups. Il préfère tenter des coups au salon plutôt que de passer par les concours académiques du Prix de Rome et tout ça. Il fait des essais, on a l'impression qu'il n'a rien à perdre dans ses expérimentations. Et c'est peut-être ça aussi qui donne à son œuvre cette singularité, qui fait de lui cette figure singulière qui est hors de tous les courants. Il a aussi une manière très particulière de jouer avec les genres, de combiner les genres et de faire des expériences qui sont même parfois assez drôles. Il y a par exemple cette nature morte au homard dans lequel on voit au premier plan des homards, des lapins dans un paysage. Alors franchement, je crois que j'ai bien regardé, mais la mer pour le homard est vraiment très très loin. Enfin, tout haut est vraiment très très loin du premier plan du tableau. Et finalement, il combine la nature morte, le paysage. Il y a aussi l'extraordinaire jeune tigre jouant avec sa mère, qui est vraiment un tableau fantastique, avec dans le fond un paysage qui ressemble à un paysage de la France profonde, une scène de genre, les animaux du zoo qui jouent ensemble. Alors il va au jardin des plantes regarder la ménagerie, mais finalement ces deux tigres sont traités quasiment comme des portraits en pied, comme le Schwitter qui est à côté. Et puis en même temps, c'est le format de la peinture d'histoire. Et Delacroix trouve cette liberté, prend cette liberté de combiner tous ces éléments qui, normalement, ne se combinent pas.
Allez, un petit dernier mot, Stéphane Coréard.
Oui, alors,
tout ce que vous aimez chez Delacroix.
Justement, je vais effectivement contredire mes propos précédents, parce que après avoir visité l'exposition, j'ai lu alors un livre que je trouvais vraiment passionnant, le livre que Stéphane Guégan vient de consacrer chez Flammarion à Delacroix, sous le très beau titre « Peindre contre l'oubli », où justement, lui, avec beaucoup de vigueur, le présente, comme Frédéric l'a fait, et avec autant de talent d'ailleurs, comme un vrai précurseur de la modernité, qui d'une aventure picturale qui va amener vers Manet, Cézanne, même Gauguin, même Picasso. Et dans le livre justement de Guégan, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a des focus, c'est le cas de le dire, par exemple sur les relations entre Delacroix et la photographie, la manière dont il a utilisé la photographie dès 1847, sur son rapport à l'érotisme, à la politique, à l'écriture. Il revient sur cette question de la mémoire, mais il la scinde et il parle de son rapport à une mémoire affective, culturelle et républicaine. Et j'ai trouvé que le livre était beaucoup plus prospectif que l'exposition telle que je l'avais vécue. Donc je retournerai la voir. Et je pense qu'à travers la lecture qu'en fait Guégan dans son livre chez Flammarion, je serai convaincu.
Bon, convaincu aussi. Alors on n'en a pas reparlé, mais c'est vrai que c'est la deuxième chose peut-être la plus connue chez Delacroix après ces grandes périodes romantiques. Ce sont les séjours au Maroc, et notamment les carnets, les pastels, les dessins. Moi, je suis fou des dessins de Delacroix à ce moment-là, où tout d'un coup, il y a une touche de couleur, une porte verte comme ça dans la Médina. Ce sont des toutes petites choses sublimes. Mais on va s'arrêter là pour Eugène Delacroix. C'est jusqu'au 23 juillet au Musée du Louvre. Le catalogue, donc, avec ce long texte, notamment, coédité par le Musée du Louvre et Hazan. Et puis, effectivement, Peindre contre l'oubli de Stéphane Guégan, c'est chez Flammarion. À suivre dans la dispute, Fujita et Abdelkader Benchama.
France Culture,
la dispute,
Arnaud Laporte.
Et pour suivre cette dispute consacrée ce soir aux arts plastiques, on se rend au musée Mayol pour découvrir l'exposition Fujita, peindre dans les années folles. Leonard Tsuguharu Fujita, peintre, dessinateur, graveur, illustrateur, céramiste, photographe, cinéaste, styliste. Alors effectivement, il y aurait eu largement de quoi construire plusieurs expositions. Celle-ci, elle se concentre, comme son titre l'indique, sur les années 1913 à 1931, celle donc de l'ascension très fulgurante du plasticien, de sa rencontre avec sa femme Fernande, donc jusqu'à son départ pour l'Amérique latine en 1931, en passant par la première exposition personnelle et triomphale. Ça, c'était en 17, le séjour à Cagnes-sur-Mer, la rencontre avec Yuki, la Légion d'honneur, mais aussi le très lourd redressement fiscal de 1928 qui va le contraindre à revoir à la baisse son train de vie. On est 50 ans après la mort de Fujita. 68, c'est aussi ça comme un anniversaire. Et donc le musée Mayol revient sur ces années vraiment folles pour Fujita. Commissariat Sylvie Buisson, Anne Ledy Berber, Carole Boissineau, scénographie Hubert Le Gall. Thank you. Voilà pour cette entrée en matière dans l'exposition Fujita, parce que si ça se passe bien à Paris pour l'essentiel, on va parler aussi du second japonisme et de cette... C'était la coqueluche, hein, une des coqueluches de tout Paris, qu'il y en avait quand même quelques-unes à ce moment-là. Fujita, Naël Pija, vous qui l'avez bien connu.
Bien sûr.
Les folles soirées.
Dans son atelier, 5 rue de l'Ombre.
Ouais.
Je m'en souviens. L'exposition montre vraiment la figure du noceur. C'est effectivement la coqueluche des années folles. C'est un Japonais. Son père est général. Il apprend le français au Japon. Et il décide de venir à Paris faire l'artiste. Et finalement, l'exposition montre bien ce caractère très, très fantaisiste, ce goût de la fête, ce côté touche-à-tout. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Fujita a fait énormément d'autoportraits. D'autoportraits avec son chat, d'autoportraits dans l'atelier, d'autoportraits en train de dessiner. Beaucoup de photographies aussi. Alors, sa peinture... Évidemment, c'est un peintre.
Sa peinture, notamment,
absolument. Mais c'est aussi ce que montre l'exposition.
Bien sûr.
C'est un peintre qui construit une œuvre très syncrétique. D'abord mêlée d'influence japonaise. Et puis ensuite, il décide de s'imprégner de la culture occidentale, de Léonard de Vinci. On apprend et on voit qu'il est inspiré par le douanier Rousseau quand il arrive à Paris, dans ses vues de Montmartre. Et puis, à partir du début des années 20, il crée... ce qui sera son propre style, notamment des tableaux en blanc sur blanc qui sont faits avec du talc et avec de la nacre pilée, qui ont un côté très velouté, comme ça, un peu soyeux. Bon, y a un côté un peu répétitif dans tous ces tableaux, notamment les longs portraits, les portraits allongés de tous ces modèles, de Yuki, de... Mais il est assez intéressant de regarder quand même les tableaux de 17 de l'exposition de Chéreau, de la galerie Chéron. Il y a des joueurs de Go,
par exemple. La première expo personnelle.
C'est sa première expo personnelle à Paris, qui a un énorme succès. Picasso vient, s'arrête pendant une heure, raconte Fujita lui-même, je crois.
Faut-il le croire ?
Il y aura une exposition Picasso et Fujita.
Certainement, oui.
Bientôt. Dans le cadre de l'année Picasso, c'est ça ?
Ouais.
Il y a de l'humour aussi dans les tableaux de Fujita. Alors, il y a un salon des chiens dans lequel on voit tous les chiens en train de danser ensemble.
Ça, c'est pour Wes Anderson.
Voilà. On voit le côté touche-à-tout de Fujita, puisqu'il est aussi cinéaste. Il a une caméra. On le voit filmer en Deauville. On le voit filmer le Japon aussi quand il fait de fréquents voyages. Enfin, il fait régulièrement des voyages au Japon dans son œuvre. On le voit peintre de grands décors. Ça, c'est une chose que je ne connaissais absolument pas. D'immenses décors très étranges avec cette technique de blanc sur blanc dont on devine des sujets bizarres. Alors on voit une référence à Velázquez, aux muscles, aux musculatures de Michel-Ange. On voit des combats d'animaux, on voit des guerriers qui se battent aussi. On le voit décorateur, on voit des tables en marqueterie qu'il a fait pour le Normandie, si je ne me trompe pas. On le voit aussi faire des... tableaux, je ne sais pas si c'est des tableaux, en pierre de Lappe. La pierre de Lappe, c'est une technique décorative inventée par un de ses amis, qui est une sorte de poudre comme ça, qui donne un effet de marqueterie, de marbre, mais qui en fait ne l'est pas. Et Fujita, il est couturier, il est céramiste, il est photographe aussi, on voit des photographies. Et en fait, l'exposition montre... en un certain sens, le côté répétitif d'une part de sa peinture, mais montre avec une certaine légèreté que j'ai trouvée plaisante, cette figure du dandy des années folles avec ses lunettes, sa frange, ses costumes, ses manières de faire des grimaces à la caméra et de faire des danses, puisqu'il est aussi passé par l'académie de Raymond Nakam.
Vous auriez aimé faire la fête un peu avec Fujita, Stéphane Correard, je suis sûr.
Certainement, mais là, on fait la fête au musée Mayol avec Culture Espace, effectivement. Bienvenue dans une exposition Culture Espace. Nos auditeurs ne savent pas forcément tous ce qu'est Culture Espace. C'est une entreprise privée, une filiale d'Engie, hein, ex-GDF Suez, qui se présente sur son site internet comme un modèle alternatif résolument moderne et centré sur l'expérience du visiteur pour gérer de façon dynamique les monuments, musées et centres d'art sans subvention publique. Ça, c'est bien pour la dette. Pour ce qui est de l'expérience du visiteur, elle va même jusqu'au vertige parce que c'est Culture Espace qui vient d'ouvrir le déjà fameux l'Atelier des Lumières à Paris, qui se présente comme un centre d'art numérique et qui, en fait, c'est des projections de tableaux de Klimt dans lesquels on peut se promener. Vous en avez sans doute entendu parler. C'est déjà eux qui avaient fait l'exposition Marie Cassatt la semaine dernière et on se rend compte
effectivement. Je préfère aller au Beau de Provence pour vraiment dans les œuvres, dans les grandes carrières.
Et mais c'est eux aussi qui font ça.
Bah oui, mais là il y a de la place. Il y a quand même un lieu imposant. Je sais pas ce que c'est le lieu à Paris. J'irai voir. Hein.
Donc c'est eux qui ont fait aussi Marie Cassatt dont on a parlé la semaine dernière. Et les recettes sont globalement les mêmes, c'est-à-dire un grand nom évocateur plutôt de joie de vivre et de plaisir. La scénographie, vous en avez parlé, classe, luxueuse, signé Hubert Le Gall. Un propos scientifique que je qualifierais d'accessible, pour être gentil. Beaucoup de chefs-d'œuvre qui manquent. Et puis, pas mal de photographies et de vidéos pour boucher les trous. Voilà, ça, c'est pour redresser un tableau un peu général. Là, il y a une nouveauté, c'est même qu'il y a des œuvres qui n'ont carrément rien à voir. Il y a des sculptures de Zadkine, on se demande vraiment ce qu'elles viennent faire. Là, et aussi le petit Douanier Rousseau, personnellement, je n'ai pas, à part la présence de la carriole, je n'ai pas trouvé personnellement de rapport. Donc, il manque beaucoup de tableaux. Il y a, en revanche, beaucoup d'œuvres mineures. Il y a un portrait de Gérard Houry qui est vraiment une croûte, infâme. Un autoportrait à la pipe sur papier calque qui vient d'une galerie allemande. Et, on a plutôt l'impression d'être à Drouot, d'ailleurs, parfois. Par moment, l'accrochage qui est assez dense et serré m'a rappelé effectivement les salles de l'hôtel de Rose, qui est plutôt finalement sympathique pour moi en tout cas, parce que c'est un lieu que j'aime bien. Mais il faut effectivement parler plutôt de ce qu'on voit, parce que ce qu'on voit pas, ça compte, mais c'est malgré tout pas ce que nos auditeurs pourront voir. Moi, j'aurais retenu quand même plusieurs choses assez passionnantes, et j'ai un jugement peut-être plus positif que celui d'Annaëlle Pijat.
Mais peut-être avant les bons points, est-ce qu'on peut faire un partage et un tour de table sur ces mauvais points que vous avez désignés ? Est-ce que ce sont des mauvais points aussi pour vous, Frédéric Bonnet ?
Oui, moi j'ai trouvé que cette exposition était une occasion manquée, parce qu'effectivement, je rejoins parfaitement Stéphane sur le fait que c'est beaucoup des œuvres mineures qui sont là, sur le fait qu'il manque énormément de choses, et que même si on réduit la temporalité de l'exposition aux années 20, aux années 30... Ce qui est bien joué, c'est d'opposer l'ambivalence même de Fujita, mais en même temps, elle est même pas explicitée. Ce que j'entends par ambivalence, c'est que je trouve ça très bien de nous présenter le dandy à Neffol, les photos de Kertész, il y a des très belles photos, il y a quelques films intéressants, ok. En face de ça, on a une peinture qui, elle, par contre, est très très sérieuse, pour ne pas dire assez grave par moment, mais la manière de présenter cette ambivalence fait que c'est pas clair, on comprend pas exactement.
Enfin,
ouais, je trouve que c'est pas, ça n'explicite pas véritablement ce qu'est le travail de Fujita. Et moi, ce qui véritablement, alors parfois, vous allez me dire, on n'est jamais content, on se plaint qu'il n'y a pas assez d'appareils pour accompagner d'appareils critiques pour accompagner le visiteur. Là, il y en a trop, mais en plus, il est chiant. C'est-à-dire que les textes de mur sont très très longs et ça vous raconte tout sur la vie de Fujita, à peu près rien sur son œuvre. Et donc, au final, on se promène là-dedans en ayant, oui, eu, on a toujours effectivement la figure du dandy qui vous fait gling-gling dans un coin de la tête, mais vous avez peu de choses véritablement qui vous parlent du travail. Et il me semble que c'est quand même l'essentiel, les œuvres.
On va revenir sur le travail, les œuvres et sur ce qu'on peut voir, mais juste une réaction d'Annaëlle Pijat par rapport à cette description par Stéphane Coréard.
Mais les œuvres, il faut les regarder. Enfin, les œuvres, elles sont là et on peut les regarder.
Oui, mais il n'y en a quand même pas beaucoup, c'est bien le problème. Quand il y a des sections, parce que l'exposition, elle est quand même saucissonnée en une dizaine de sections.
C'était le cas de Marie Cassatt aussi.
Ouais.
Il y a quand même une dizaine de textes de ça.
Moins on en a, plus il faut découper.
Et le principe. Le truc, c'est que c'est découpé, why not, pourquoi pas, très bien. Mais c'est bien.
Parce qu'on parle toutes les langues ici.
Tout à fait. Mais ça serait bien d'expliciter le propos ensuite avec des œuvres. Or, parfois, vous avez un texte, donc très long, et puis vous avez trois tableaux derrière. C'est un peu court.
Alors, je reviens vers vous, Stéphane Correa. Non, vous ne vouliez pas répondre à Annaëlle Pijat.
Si, je voulais absolument
répondre.
Non, vraiment. Je crois que la figure de Fujita compte. Le commentaire de son œuvre passe par... Enfin, il faut les regarder, ces tableaux, simplement, ils sont là.
C'était la même réponse, en fait, pour Annaëlle. J'ai bien fait de vous redonner la parole.
Donc,
Stéphane Correa.
Il y a quand même des choses vraiment passionnantes. J'ai toujours eu un faible pour Fujita, au moins pour trois raisons que je retrouve là totalement. La première, c'est que c'est quand même un dessinateur hallucinant. Les chats, les enfants, c'est-à-dire les modèles impossibles, et malheureusement, il n'y a pas assez de chats. J'aime pas les chats en tant qu'animaux, mais les chats dessinés par Fujita sont
écrivez directement à Stéphane Correa, je ne veux rien savoir.
Et surtout, chaque chat, chaque attitude est différente. Et là, la répétition devient passionnante, parce que c'est pas la répétition, c'est la variété. L'autre chose qui m'intéresse, c'est que c'est un vrai moderniste qui dialogue avec l'art de son temps, mais de manière discrète et cependant radical. Un des beaux moments d'accrochage, je trouve, de l'exposition, c'est quand il y a un nu blanc sur fond blanc de 27 qui est posé à côté d'un nu blanc sur fond noir de 1922, et c'est comme si c'était dans une salle Malevitch d'un coup. Mais je voudrais surtout revenir effectivement sur les quatre grands tableaux de 3 mètres par 3 de 1928 qui sont pour moi une découverte absolue. Je les avais jamais vus en vrai. Très peu de gens les connaissent. Alors déjà, malheureusement, ça c'est le côté un peu de culture espace. C'est en fait deux diptyques. Là, il y en a un qui est montré tout seul sur un mur et les autres trois à côté. Donc c'est quand même un peu dommage pour deux diptyques. L'histoire quand même de ces tableaux est encore aujourd'hui assez mal connue. Ça aurait été une commande pour orner la maison du Japon de la cité universitaire. Il y aurait eu une brouille avec le commanditaire. Ces tableaux ont été montrés en 1928, en novembre 1928, par Félix Fénéon, qui était quand même le plus grand critique de son temps, à la galerie Bernheim Jeune. Ensuite, ils ont été montrés au Jeu de Paume en 1929, et ensuite, on ne les a plus jamais revus, jusqu'en 1992, la mort de Kimio Fujita, la dernière femme de Fujita. Et à ce moment-là, dans son testament, elle en fait don au Conseil Général de l'Essonne, ce qui n'était peut-être pas l'idée la plus brillante, mais ils ont été quand même restaurés, et enfin montrés en 2008, dans l'orangerie du domaine de Chamarande. Quatre tableaux de 3 mètres par 3, sacré morceau de peinture, des monochromes blancs, avec des très légère touche de couleur, un dessin d'une sûreté absolument sidérante. Et d'ailleurs, en restaurant les tableaux, ils les ont passés au rayon X et ils se sont rendu compte qu'il n'y a pas un repentir sur les quatre tableaux, c'est-à-dire quand même sur cette, si je compte bien, 36 mètres carrés de peinture. Et effectivement, comme Anaël, je suis resté totalement interdit devant ce que montrent ces tableaux. Il y a notamment les deux combats. Sur celui de gauche, il n'y a que des hommes, des postures antiques, comme ça, de combats hyper stylisés avec cet homme au bâton, etc. Et en haut à gauche, il y a deux femmes, simplement, qui ont l'air de regarder cette scène de manière à la fois interrogative et un peu concupiscente. Et d'ailleurs, sur l'autre tableau, la partie droite de ce diptyque, là les corps féminins et masculins se mélangent de manière, je trouve, extrêmement osée. Et en bas du tableau, au centre, il y a une très jeune femme, très jeune fille, je veux dire, une jeune fille assez balthusienne comme ça, qui est assise très tranquillement, les jambes écartées, le sexe totalement imberbe. Et c'est des tableaux que je trouve d'une modernité vraiment étonnante.
Commentaire sur ces tableaux, par exemple, Frédéric Bonnet, oui.
Oui, parce que ça effectivement, c'est ça fait partie des choses intéressantes à voir dans l'exposition, et qui montre aussi que Fujita est aussi convaincant et à l'aise dans les grands formats que dans les petits. Parce que moi, j'ai trouvé que un des plus beaux murs de l'exposition, c'était le mur des tout petits portraits d'enfants. Ça, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Il y a une série de portraits d'enfants avec des regards, je sais pas, complètement ambigu, parce qu'ils sont à la fois vides et intenses. Il y a une drôle de chose qui se...
Un effet zombie
qui se passe là, oui.
Enfin, prêt à vous manger, quoi, aussi.
Ouais. Il se passe vraiment quelque chose dans ces portraits, et Stéphane parlait de la sûreté du trait qui est effectivement absolument bluffante partout, et qui est allié à un raffinement qui l'est tout autant, et qui fait que il est capable de réduire le portrait à quelques lignes incisées, à une couleur presque inexistante, avec le glacis par-dessus. Il y a quelque chose de flottant, il y a quelque chose d'une gestion du vide dans la peinture de Fujita et dans son rapport au corps qui est assez stupéfiante. Et en même temps, une sorte d'élasticité du temps, parce qu'on ne sait pas où on se place. Donc il y a quelque chose de vraiment très troublant.
Anaël Pigeat, pour finir.
Son rapport à la culture, enfin le contenu de sa vie et le rapport de son rapport à la culture japonaise et à la culture occidentale sont en fait tout à fait importants pour regarder ses œuvres. Et c'est pour ça que le fait de voir sa vie, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, me semble quand même tout à fait essentiel pour regarder ce tableau. Par exemple, le vide dont parlait Frédéric, il est mentionné par Sylvie Buisson, qui est quand même la grande spécialiste de Fujita, comme une présence du ma comme une sorte d'entre-deux, d'entre les lignes, qui est très présent dans ces tableaux de blanc sur, enfin, je les appelle de blanc sur blanc, mais dans lesquels les corps apparaissent de manière extrêmement diaphane. Et en fait, ce mélange, il y a cette présence de l'asymétrie dans des portraits, dans des autoportraits, par exemple, où on voit que son regard et que les rides de ses au-dessus de ses lèvres sont asymétriques, qui est une notion extrêmement présente dans la culture japonaise, et qui rejoignent aussi la figure du chat, la figure de l'insoumission. Tous ces éléments sont, me semblent tout à fait essentiels. Et finalement, l'exposition nous prend par la main avec les vidéos les vidéos des films de Fujita pour nous introduire à tout ça. Et pour nous entraîner dans un autre regard sur ces tableaux.
Alors, j'ai pas donné en temps tout à l'heure les commentaires très élogieux sur l'expo de Lacroix, mais quand même quelques-uns sur Fujita, pour donner un peu de, mettre un peu de baume sur Culture Espace. Valérie, Val Renaud nous écrit, Musée Mayol, qui a encore une fois réalisé une scénographie pédagogique et intelligente. Noémie, c'est enchantement à l'heure de la pause-déj avec la rétrospective Fujita. Aurélie Gros, magnifique succès du Musée Mayol pour l'exposition Fujita et toujours autant d'émerveillement devant le maître du trait. Enfin, Cécile Chevalier, c'est la finesse du trait, une façon de dessiner les enfants comme personne. Dandy au cœur tendre, très travailleur, curieux, sensible, émouvant, touchant. Voilà, il y en a d'autres encore pour cette exposition Fujita, peindre dans les années folles, qui est visible jusqu'au 15 juillet au Musée Mayol. Il y a un catalogue publié par les éditions Fonds Mercator.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute art plastique, c'est l'horizon des événements. Titre de l'exposition d'Abdelkader Benchama, c'est au 104 avec la Galerie du Jour Agnès B, sur une invitation de José Manuel Gonçalves en collaboration avec Yasmina Regan. Comme ça, j'ai oublié personne. On peut donc voir au 104 d'immenses dessins muraux qui jouent, on va en parler, avec l'espace physique et l'espace mental, on pourrait dire ça, avec la science, avec l'ésotérisme, avec la littérature, avec l'histoire de l'art. Tout ça étant, pour Benjamin, on va en parler, autant de sources d'inspiration.
Un trou noir, c'est un astre. C'est un astre, une boule de matière, tellement condensée, tellement dense, et en conséquence avec un champ de gravité tellement grand, que même la lumière ne peut pas s'en échapper. La lumière qui chercherait à s'en échapper retombe sur lui comme l'eau des fontaines, exactement, parce qu'elle est ramenée sur le trou noir par l'attraction puissante qu'il exerce.
Bon, après la dispute spectacle vivant, la dispute science maintenant. Hein. Pourquoi est-ce qu'on entend Hubert Reeves parler de trou noir? On va en avoir peut-être quelques idées en écoutant à présent. Qui est-ce qui commence? Est-ce que c'est Stéphane? Est-ce que c'est Frédéric? Je ne sais pas. Allez, Stéphane Coréard.
Oui, normalement, c'est à moi. J'aurais réclamé si vous voilà, m'avez pas donné la parole.
J'attendais que vous râliez.
Et mon cher Arnaud, je suis très content que vous me donniez la parole pour parler en premier de cette exposition. Parce
c'est fait
que
pour. Hein.
Je n'ai pas grand-chose à en dire, si ce n'est vous décrire cette exposition.
C'est très compliqué. Alors là, bon courage.
On connaît
nos
le
auditeurs
travail
et auditrices internautes. Allez tout de suite taper le nom d'Abdelkader Benchema pour voir des
si
images.
Si vous me laissez les 13 minutes qui nous séparent de 20 heures, je pourrais vous décrire à peu près l'exposition.
Ah bah, bon, bah vous pouvez y aller, Anaël et Frédéric. Merci beaucoup.
Progressivement, en effet, Benchema est sorti de la ligne claire de l'influence de la bande dessinée actuelle, la bonne, hein, Daniel Clowes, Charles Burns, qui le caractérisait, et même de la représentation de la figure humaine dans cette exposition, au profit d'une nouvelle vision de son travail, je trouve, qui développe au 104. Au niveau des moyens et de l'inscription dans l'espace de l'exposition, c'est une absence totale de limites, spatiales notamment, mais aussi dans le médium. Et au niveau des sujets et des motifs, l'exploration d'un univers infini, indéfinissable, quelque part entre l'infiniment grand du cosmos et l'infiniment petit de la structure moléculaire des minéraux. Dans la première salle, il y a quatre cimaises en croix au centre de la salle qui sont déchiquetées comme les pages d'un carnet de dessin qui ont été rageusement déchirées, posées sur la tranche. Et cette installation s'appelle l'Atlas des hétéronymes, point, l'unité perdue, point. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces quatre cimaises? Ben, un accrochage qui est un petit peu là, une accumulation de tous les gimmicks du dessin contemporain, je dirais. Il y a wall drawing, des feuilles punaisées, des dessins encadrés, certains en blanc, certains en noir, certains en bois naturel, sans qu'on puisse vraiment saisir la nécessité de tout ça, si ce n'est de faire circuler le regard et d'égarer le regardeur. Ce que confirme d'ailleurs les morceaux de figuration qu'on perçoit dans cet ensemble qui est quand même plutôt abstrait, c'est-à-dire des comètes, des soucoupes volantes, des trous noirs, effectivement, ce qui explique votre choix d'Hubert Reeves, des phénomènes climatiques inquiétants, une gravure ancienne de paysages accrochés tête en bas dès qu'on arrive, des faisceaux lumineux antiaériens, des machines volantes, des unes de journaux anglo-saxons qui ont l'air de relater une quelconque catastrophe. En fait, comme l'hétéronyme du titre, Benjamin montre que l'image ou le motif peuvent posséder plusieurs sens différents. On tourne autour de cette structure. Bon, derrière, juste derrière la structure, sur le mur de la salle d'exposition, il y a accroché un diptyque avec une double allée d'arbres, un petit peu comme dans le parc d'un château à la française. Ça, j'ai pas très bien compris ce que ça venait faire là. La couleur fait son apparition dans les cimaises derrière. Il y a des morceaux de ciel avec des traces d'objets volants ou des morceaux de nuages. Moi, ce que...
Qu'est-ce que ça a provoqué en vous? Parce que alors, quelques images stade, sur le live tweet de la dispute.
Ce que j'ai préféré, c'est des choses qu'on connaît déjà dans le travail de Benjamin, qui sont ces collages à la Max Ernst et ces gravures surtout anciennes retouchées, même si ce terrain a déjà été balisé par Cyprien Gaillard ou d'une autre manière par Laurent Grasso, plutôt dans la peinture. Mais ici, il y a deux gravures, notamment signées de Rembrandt. Je n'ai pas vérifié si c'était vraiment des bases de gravures de Rembrandt, qui sont caviardées, légendées. Une s'appelle Cuba et Observatoire, l'autre juste Cuba, Algérie. Et Cuba, j'ai fait une recherche, puisque je ne parle pas forcément la langue, signifie coupole en arabe. Et effectivement, on pense à ce moment-là au dôme de l'architecture de Boulay de Lequeux, dont on avait déjà parlé ici, à propos de l'exposition Globe à la Cité de l'Architecture, et aussi à tout ce travail qu'il y a en ce moment autour de la revisitation de l'orientalisme. Et j'ai même pensé, je dois dire, à ce que Mohamed Bourguissa a fait au Musée moderne de la ville de Paris en cherchant désespérément des œuvres d'artistes algériens à exposer. Et on sent là un propos qui s'esquisse.
Bon, est-ce que vous sentez bien le propos, vous, Frédéric Bonnet, ou est-ce qu'il s'esquisse?
Non, j'ai été assez déçu par l'exposition. Pourtant, c'est le travail d'Abdelkader Benchama m'intéresse quand même plutôt depuis assez longtemps, et c'est un travail que je regarde et que oui, qui en général me plaît. Là, j'y retrouve des questionnements qui sont récurrents et qui m'intéressent. La perte de repères visuels et spatiaux, la narration qui n'en est pas une, l'explosion des formes, une manière de se laisser aspirer dans un inconnu qui n'est pas vraiment observable. Et puis là, ici, c'est la science qui côtoie le surnaturel, et en fait je crois que le point central de la chose et de cette proposition là c'est la question de la croyance et du doute, mais c'est vrai que la mise en œuvre et la mise en espace, je sais pas si c'est le fait des salles du 104 ou si c'est le fait que ça arrive à tout le monde, il a mal géré son affaire, mais ça aurait pu être assez bien joué parce que il y a ces deux espaces, une espèce de grotte donc toute noire et donc plutôt un espace qui vous aspire, et à l'inverse cette structure que décrivait Stéphane qui va avoir tendance à vous rejeter vers l'extérieur. Mais ouais, il y a un peu des poncifs sur, effectivement, là aussi, je suis d'accord avec vous, Stéphane, sur l'expo d'art contemporain aujourd'hui, en multipliant les formes. Et donc, oui, tout ça, au final, c'est quand même pas très satisfaisant.
Bon.
Et un peu décevant.
Anaël Pigeat.
Oui, c'est un peu symptomatique de ce que pourrait être la définition du dessin contemporain en trois dimensions, enfin, du dessin contemporain qui n'est pas seulement en deux dimensions. Alors, effectivement, on passe dans la troisième dimension. En fait, je pense que La chose compliquée dans cette exposition, c'est le rapport à l'espace. C'est-à-dire qu'on se demande en permanence si on devrait s'approcher, si on devrait plutôt s'approcher de chacun des petits des dessins qui sont accrochés ou des petites peintures qui sont accrochées sur ces quatre cimes posées au milieu de la pièce, ou si donc vraiment mettre le nez dessus et regarder en détail et y plonger, ou s'il faudrait pas regarder l'installation de beaucoup plus loin, ce qui n'est pas possible puisqu'on se cogne dans les murs et que en fait il n'y a pas le recul nécessaire pour voir vraiment ce grand objet tombé du ciel, déchiré, dont on ne sait pas en effet si c'est un carnet ou si ce sont les pages d'un carnet ou si c'est un morceau de maison.
Moi, je pensais que c'était sa version de la cabane éclatée en fait. Mais,
oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça.
C'est un peu ça.
Exactement. Et au fond, cet endroit-là, je crois que un dispositif semblable, je ne sais pas si c'est exactement le même, a été montré à Montpellier dans une vaste église. Et là, on imagine la chose pouvant être beaucoup plus soit vue à distance, soit avec un vrai effet d'immersion. Mmh. Et je crois que, j'ai eu le sentiment que c'était ça qu'il avait eu envie de créer dans ces espaces du 104, puisqu'il y a la grotte à côté et qu'on flirte en permanence avec cette idée du vide et du plein, puisqu'on passe dans la première salle, il y a cette cimaise avec des cadres accrochés et des feuilles accrochées sur le mur. Dans la pièce suivante, qui pourrait être une sorte de sas, on a des empreintes d'images, comme si les images avaient été retirées, donc on s'approche de la notion de vide. Et puis ensuite, on retombe dans la grotte, dans une ambiguïté entre le vide et le plein, où on est absorbé par ce vortex. Mais effectivement, la position est un peu inconfortable et finalement ne met pas en valeur autant qu'elle le pourrait le travail d'Abdelkader.
Il y a peut-être effectivement un problème d'espace. Alors je ne sais pas, vous qui passez vos temps dans les avions, si vous aviez vu ce qu'il avait fait au Drawing Center de New York, Abdelkader Benchama, parce qu'on se dit qu'il y a peut-être même si le 104 n'est pas le lieu le plus petit de Paris, les espaces en tout cas où il est exposé, c'est peut-être pas l'adéquation, parce qu'il y a quelque chose qui doit être joué de l'immersivité, enfin du rapport. Mais ça ne fonctionne pas véritablement, alors est-ce que c'est un problème d'espace?
Oui, alors je vais décrire la troisième salle, puisqu'en fait il y a deux grandes salles, et puis ce sas effectivement dont Annel Pija a parlé, où il y a effectivement ces dessins en réserve, comme s'ils avaient été enlevés. La troisième salle, que mes compères ont appelé la grotte, effectivement la pièce s'appelle Intercession, c'est une installation immersive. Le sol est en moquette noire, le bas des murs est entièrement peint en noir, et puis le dessin petit à petit se déploie, laisse apparaître du blanc, les angles de la pièce sont adoucis, arrondis, le plafond est peint également, donc il y a cette idée effectivement de grotte. C'est assez cheap en termes de matériaux, etc. Donc là aussi c'est quand même un petit peu difficile de la jouer installation immersive quand en fait on fait attention à des détails du mur qui est pas propre, de l'arrondi qui est pas bien net. Au-delà de ça, moi ce qui m'a, je pense, on a bien compris ce que le glissement qui s'opère dans le travail de Benchama. D'ailleurs, on pourrait parler de glissement même de plaques presque tectoniques, puisque les traces de pinceau qu'on voit sur les murs évoquent des plissements géologiques. Elles alternent avec des sortes de sfumato et des traits interrompus par des points façon braille, donc c'est une espèce de nouveau vocabulaire formel. Mais moi, ça m'a pas du tout convaincu. En tout cas, c'est peut-être la manière effectivement de présenter ce nouveau travail qui n'est pas convaincante, ou est-ce que c'est l'évolution du travail qui est dans une phase un petit peu ingrate? J'ai curieusement pensé à une exposition que j'aurais voulu vous conseiller, mais elle vient de se terminer, de Jean-Michel Sanejouan à la galerie Art Concept, qui s'appelait Beyond Colors, et où il y avait un travail sur le dessin, sur la trace, sur le noir et blanc, sur le surgissement, sur l'immersion, sur le minéral, qui était quand même d'un autre niveau.
Au programme de la dispute, hein, vous êtes force de proposition tout autant que vous êtes. Évidemment, hein, c'est comme ça que ça se fonctionne ici, dans cette émission en tout cas. Bon, voilà ce qu'on voulait dire ce soir sur Abdelkader Benchama, l'horizon des événements, jusqu'au 6 mai au 104 à Paris, et habile transition au 104, mais au studio 104, samedi, 14 avril, donc ce samedi. Il y a un concert fiction, Tigre en papier, d'après le roman d'Olivier Rollin, et c'est un très beau texte. Alors moi j'ai envie de savoir ce que ça va donner avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France et cette production France Culture. Ce seront Eric Elmosnino et Annelise Emberger qui seront les comédiens de ce concert fiction. Donc voilà, c'est évidemment dans le cadre des commémorations de mai 68. Venez à la Maison de la Radio, samedi 14 avril, 20h, c'est le concert fiction Tigre en papier. Thank you. Pour l'heure, nous concluons l'émission avec le jeu de la dispute et avec Camille André qui va d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier soir et nous donner dans la foulée sa réponse.
Eh bien, lors de l'exposition Enfers et fantômes d'Asie, un hologramme de femme, vampire, chat est présenté. Par quel artiste cette installation a-t-elle été conçue? Et il s'agit de la danseuse de buteau Yoko Agashi.
Ce soir, des DVD Faust, une légende allemande, film de Murnau qui est en version restaurée et distribué par Potemkin. C'est une merveille. Pour la gagner, il faut répondre à quelle question?
Eh bien, par quel artiste a été réalisée la gravure représentant le docteur Faust, dont s'est fortement inspiré Murnau dans son film Faust, une légende allemande?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Vous pouvez également y réécouter nos émissions et vous abonner au podcast. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain qui sera consacrée à la littérature. Nous serons en compagnie de Lucille Comeau, Elisabeth Franck-Dumas et Florent Georgesco. Au sommaire, les œuvres complètes d'Ossip Mandelstam, qu'audition La Dogana, Le Bruit du Temps et puis L'Affaire Furtif de Sylvain Prudhomme.